lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive et ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Quels sont les buts de l'Église? Au fond, que faisons-nous, semaine après semaine, à se réunir? Pourquoi sommes-nous l'Église dans ce monde, au fond? Dieu aurait pu aussi bien nous prendre directement avec lui pour qu'on soit dans sa présence, mais il nous a laissés ici-bas, dans les cours découvertes que l'on donne dans cette Église. On répond à cette question fondamentale, en disant que l'Église existe pour trois buts essentiels. Servir Dieu, servir les frères, et puis servir le monde. Mais comment servons-nous Dieu? Eh bien, je pense que servir Dieu, notamment, c'est de célébrer sa gloire, c'est célébrer les louanges de notre Dieu. Dieu est entièrement digne d'être célébré, entièrement digne d'être loué, non seulement lorsque vous êtes seul dans votre chambre et que vous pensez à lui comme David, mais aussi quand vous êtes sur une montagne ou dans l'Algarve au Portugal. Vous pouvez célébrer Dieu. Mais aussi, on le fait ensemble. Et là, cet été, on veut le faire ensemble à l'aide des psaumes, en célébrant Dieu, en le louant, en louant son nom. C'est certainement un des objets des psaumes, du livre des psaumes, un des buts, c'est de nous apprendre, de nous enseigner à louer Dieu de tout notre cœur. Vous vous rendez compte, c'est le livre le plus important de la Bible, 150 chapitres. Et tous ces chapitres, tous ces versets sont là pour porter notre regard sur Dieu et l'apprendre à célébrer et à glorifier son nom. La plupart du temps, notre louange est l'expression de notre reconnaissance envers Dieu, pour le travail qu'il nous donne, pour la réussite aux examens, pour la bonne santé, pour les bonnes vacances. Et au fond, c'est aussi pour tous les exaucements à nos prières, pour nos enfants qui marchent avec Dieu, pour l'amour partagé dans le couple. Et je crois que nous faisons bien de lui dire merci, d'exprimer notre reconnaissance. Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, il dit « C'est à votre égard la volonté de Dieu de rendre grâce à Dieu, de lui exprimer notre reconnaissance. » Mais il arrive aussi que les jours que l'on est à vivre soient des jours plus difficiles. Si vous avez perdu votre travail, si vous avez échoué à vos examens, si on vous a diagnostiqué un cancer, et si vos enfants se sont éloignés de Dieu, et si vous viviez des tensions dans votre couple, le plan de Dieu n'a pas changé pour vous. Vous êtes appelés encore à célébrer Dieu. Et vous pouvez toujours célébrer les louanges de Dieu. Et peut-être même avec le plus... Ça prend une importance considérable à ce moment-là d'apprendre à louer Dieu lorsque rien ne semble aller dans nos vies. Vous allez le louer non plus pour ce qu'il vous donne, mais vous allez le louer pour ce qu'il est véritablement. Et David, ici dans ce psaume, j'aimerais qu'on observe cela, il apprend à louer Dieu de cette manière-là. On voit d'abord sa quête de Dieu, et puis on verra ensuite sa satisfaction, comment il trouve satisfaction en Dieu, et puis enfin on verra qu'il trouve sa sécurité, son espérance en Dieu. Il est dit ici que David a composé le psaume 63 alors qu'il était dans le désert de Juda, hein, verset 1. Et au verset 11, on apprend, il dit, hein, ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Il a des ennemis à ce moment-là et il est poursuivi au désert, il a des ennemis qui en veulent à sa vie. On pense immédiatement à cette période d'une dizaine d'années où il a été pourchassé par Saül avant de monter sur le trône d'Israël. Mais je ne crois pas que ce soit cette période de sa vie dont il s'agit. Regardez au verset 12, il est dit « Et le roi se réjouira en Dieu ». Et donc ici, on apprend que David, il est déjà roi, alors que lors de sa première fuite, il n'était pas roi. Ainsi, ce psaume a été très probablement écrit, comme le psaume 3 que l'on a lu tout à l'heure, alors que David fuyait devant Absalom, son fils, qui venait de faire un coup d'État. David fuit dans le désert de Juda en direction de son exil forcé à l'est du pays, à l'est du Jourdain. Cette histoire nous est racontée en 2 Samuel chapitre 15. Il y a une distinction importante entre cette première fuite et cette deuxième, ces deux fuites au désert. Dans la première fuite, David n'est pas roi. Il n'a rien, au fond. Il est un simple berger, un soldat qui a remporté une belle victoire. Mais dans cette deuxième fuite au désert, il perd tout. Il perd le trône. Il perd la richesse. Il perd l'honneur, la force. Dans la première fuite au désert, il est poursuivi par Saül, un homme qui est jaloux, d'une autre tribu que la sienne. Mais dans celle-ci, dans cette deuxième fuite, c'est son propre fils qui mène la traque. Et c'est son plus fidèle conseiller, Achitophel, qui le trahit. Et c'est bien plus difficile. Et voici comment David loue son Dieu. Au verset 2, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Je trouve cette expression capitale. Le fondement de sa vie, c'est de dire « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Et je vous suggère d'apprendre par cœur ces versets. Parce que le jour où vous allez être frappé, atteint par la souffrance, par des difficultés, par une injustice, il faut qu'on apprenne, nous ces enfants, à dire « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Il ne remet pas en question Dieu. Il ne remet pas son existence, ou sa justice, ou sa sagesse, hein, sa puissance. Il ne remet pas en question les raisons de Dieu. Non, il dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu !» De toute manière, tu es mon Dieu ! Je m'appuie sur toi. Quand vous êtes frappé par le malheur, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que vous dites « À quoi bon ?» Après tout, hein, je m'applique à marcher avec Dieu et puis voilà ce qui m'arrive. Moi, j'abandonne. Ou est-ce que vous dites « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Et quelles que soient les circonstances de ma vie, tu es mon Dieu sur lequel je fonde ma vie. » Maintenant, c'est clair que David ne comprend pas toutes les raisons pourquoi Dieu permet une telle situation dans sa vie. Et puis même, on a l'impression qu'il ne ressent pas vraiment la présence de Dieu à ses côtés. Il dit « Je te cherche, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. » La bonne attitude, la bonne réaction dans nos détresses, dans nos déserts, c'est de chercher Dieu, se poser et chercher Dieu. Le rejoindre. Il dit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Vous savez, là, il est en train de fuir dans le désert et le désert, ça va lui générer une soif provoquée par la déshydratation, c'est la chaleur. Là. Comment est-ce qu'il va réagir à cette chaleur ? La seule chose dont il a besoin, plus que l'eau même, c'est la présence de Dieu. Mon âme a soif de toi. il a besoin de lui de façon plus vitale encore que l'eau dans le désert. Quand Dieu est là, alors notre âme, elle revit. Quand Dieu est là, dans toute sa grandeur, les difficultés prennent une autre mesure. Elles sont beaucoup moins effrayantes. Et dans cette quête de Dieu, David ne manque pas de le trouver. D'ailleurs, au verset 3, il dit « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire ». Il le cherche et maintenant il le contemple. Il le contemple. Il fixe ses regards sur lui. Et il a trouvé son trésor, un trésor qui demeure quand tout le reste s'est envolé. Il me reste Dieu, mon Dieu, une ressource qui est suffisante dans n'importe quelle situation critique. Une chose aussi que je voudrais relever dans ce psaume, c'est l'absence totale de culpabilité chez David. Nous savons que la révolte d'Absalom, l'humiliation de David, le déshonneur des concubines de David, l'épée qui ne s'éloigne pas de sa maison et qui fera mourir plusieurs de ses fils, tout cela est une conséquence de son péché avec Bathsheba et de son crime envers Uri. Au fond, quelque part, toutes ces choses-là étaient annoncées, elles le rattrapent. Ce sont les conséquences. Mais il ne vit pas cela avec un sentiment de culpabilité. Son péché est pardonné en vertu de sa repentance et de sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, du Rédempteur à venir. Et il a exprimé cette repentance et cette confiance en Dieu qui pardonne dans les psaumes 32 et 51. Donc celui qui se confie en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, il est délivré de la culpabilité. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment important si on veut trouver Dieu, si on veut vraiment trouver son secours, si on veut apprendre à le louer. Dieu a payé pour nos fautes. Ça veut dire que ce ne sont pas nos souffrances, ce ne sont pas nos difficultés, ce ne sont pas toutes sortes d'oppositions qui vont apaiser nos consciences. C'est le péché ne s'en va que d'une seule manière, la culpabilité ne s'en va que d'une seule manière, lorsque l'on reconnaît que Jésus-Christ a payé pour nos fautes. Et c'est uniquement par le sang qui a coulé sur la croix que le péché peut être effacé, que la culpabilité s'en va. Et c'est pour ça que David, il est paisible ici. Et c'est pour cela qu'il peut vraiment chercher Dieu, même s'il doit supporter les conséquences de ses péchés, de ses fautes, de ses mauvais choix dans le passé. Il peut le faire délivré de toute culpabilité. Et c'est pourquoi on ne trouve aucune trace, justement, de cela, de son péché dans ce psaume. Il est pardonné. Il se sait pardonné. Et c'est pour ça qu'il peut vraiment faire face à cette situation avec confiance. Et puis, il trouve sa satisfaction, on trouve ça dans les versets 3 à 6, il trouve sa satisfaction en Dieu. David, ici, il n'a plus rien. Son secours, son assurance, sa vie est en Dieu seul. Sa joie et son allégresse, c'est étonnant. Dans plusieurs versets, j'ai noté là au verset 6, « Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » Et puis au verset 8, il dit « Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. » Et au verset 12, « Et le roi se réjouira. » C'est étonnant. Hein? Imaginez la situation dans laquelle il se trouve, pourchassé par son propre fils, ayant tout perdu. Il est encore capable de se réjouir. Waouh! Et le fait qu'il soit dans la joie est une magnifique louange et un puissant témoignage de qui est Dieu pour lui. La condition politique du roi, au fond, est au plus bas. Mais sa condition spirituelle est au plus haut. Dans le verset 3, il avait dit « Alors je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » C'est très fort. Si le contexte du psaume est bien cet épisode tragique hein, où David fuit devant Absalom, alors il a été rejoint par la présence du sacrificateur Tsadok avec les Lévites et puis avec l'arche même de l'Alliance. Et ils sont là prêts à suivre David. Mais David leur dit « Reportez l'arche de Dieu dans le temple à Jérusalem. » Pour David, Dieu est toujours dans le sanctuaire. Et pour nous, Dieu est toujours dans le sanctuaire. Dieu, il est saint. C'est-à-dire que même dans nos déboires, dans nos injustices, dans nos déserts, Dieu est toujours là, dans le sanctuaire. Il n'y a rien en lui d'injuste, d'inique, de méchant. Rien que l'on trouve comme dans l'esprit vengeur d'Achitophel Achitophel, sa fille, sa petite fille était Bathsheba. Et c'est pour ça qu'il a, alors qu'il était ami de David, il a rejoint le parti d'Absalom pour nuire à David, pour se venger au fond de ce qu'il a fait à Bathsheba. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Et Dieu, il ne viendra pas se venger. Si nous sommes pardonnés par Jésus-Christ, alors il n'y a pas plus de condamnation. Et David ici, il pense à Dieu et il le voit, Dieu, dans son sanctuaire. Et quand il médite dessus, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit sa puissance et sa gloire. La puissance de Dieu et sa gloire. Et quand on pense, quand on contemple à la puissance de Dieu et à sa gloire, on réalise alors que tout ce qui nous arrive, tout ce qui semble parfois contraire à la volonté morale de Dieu, ça n'est pas le résultat d'un manque de puissance chez Dieu. Comme s'il n'avait pas été capable de résister au mal, de vaincre les puissances humaines ou spirituelles, comme s'il était contraint par elles. Non, quand David contemple Dieu dans son sanctuaire, il s'émerveille devant la puissance de Dieu. Il n'est pas en train de penser que ce qui lui arrive est le résultat de la ruse d'Absalom et puis de la trahison d'Achitophel, du stratège Achitophel, mais de la volonté de Dieu. Si Dieu n'avait pas permis à Absalom de prendre le pouvoir, il ne serait pas sur le trône à ce moment-là. Et ça, c'est très important. Parce que ça veut dire que ce qui nous arrive est sous le contrôle de Dieu, de sa puissance. Et puis il contemple aussi la gloire de Dieu. Dieu a tout fait pour sa gloire. Même cet événement catastrophique de prime abord est pour la gloire de Dieu. Et toutes les choses concourent à faire éclater la gloire de Dieu. La croix de notre Seigneur Jésus et c'est certainement l'exemple le plus marquant, le plus parlant. Il a été livré par la méchanceté des hommes et par leur manigance. Ils étaient eux-mêmes sous la puissance des ténèbres et pourtant ils ont accompli malgré eux la volonté de Dieu et le salut des hommes pour lequel Dieu sera célébré au siècle des siècles pour la gloire de sa grâce, pour la splendeur de son amour, pour la puissance de son salut et pour son infinie sagesse. Déjà là, on a l'impression que David, il a rejoint son Dieu. Il, en le louant, en portant ses regards sur sa gloire, sur sa puissance, il a retrouvé son Dieu. Vous savez ce que Dieu fait alors qu'il fuyait, qu'il gravissait cette montagne juste en face de Jérusalem? Qu'est-ce que David fait quand il arrive au sommet? La Bible dit en 2 Samuel chapitre 15 verset 32 que David a adoré. Il a adoré. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que humainement, tout lui est contraire. Et là, on peut imaginer David qui s'agenouille et qui adore son Dieu. Qui célèbre son Dieu, qui fixe ses yeux sur sa puissance sur sa sagesse, sur sa justice, sur sa gloire. Il a adoré son Dieu. Il a même renvoyé sur Jérusalem plusieurs de ses fidèles compagnons, et notamment Hushaï. Vous savez, lorsqu'on adore Dieu en contemplant sa puissance et sa gloire, alors on ne cherche plus à avoir l'appui des hommes, parce que Dieu nous est suffisant. Dieu nous est suffisant. Car ta bonté vaut mieux que la vie. La vie ici, c'est tout ce qui, à nos yeux, fait partie d'une existence heureuse. Si vous deviez noter, qu'est-ce qui vous rend heureux? La santé, la sécurité, le succès, les richesses, voilà. Tout ça, c'est la vie. Il dit, car ta bonté vaut mieux que tout cela. Lorsque nous sommes privés de ces choses et exposés à l'adversité et à toutes sortes de souffrances, il nous reste un bien encore plus précieux et que nous ne pouvons pas perdre, la bonté de Dieu. Et le mot hébreu ici pour bonté, c'est un mot qui est très riche de sens. Il est souvent traduit par amour, miséricorde, grâce, bonté de Dieu. Tout cela nous reste. Il y a dans la personne de Dieu suffisamment pour bénir Dieu toute sa vie. Ça, c'est le verset 5 qui dit ça. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Et puis au verset 6, il dit encore, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. En contemplant son Dieu, l'âme de David est rassasiée, comblée. Et même dans cette terrible situation, il célèbre son Dieu avec des cris de joie. Et puis enfin, David parle de sa sécurité et de son espérance en Dieu dans les versets 7 à 11. Verset 7, il est dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je crois qu'on peut bien comprendre de quoi il parle ici. Il vient de fuir. Il ne sait pas ce qui va devenir. Son fils s'est rebellé contre lui. Il est là, sur sa couche, et il craint pour sa vie. Il craint de fermer les yeux. Et là, il ne trouve pas le sommeil. Les heures passent. Vous savez, quand vous êtes assailli par des injustices, vous avez l'impression que vous replacez ça souvent en boucle dans votre tête. Vous essayez de comprendre, vous essayez d'expliquer, vous essayez de savoir comment vous devriez réagir. Puis vous ne trouvez pas. Et puis même vous avez des mauvaises pensées à l'égard de ceux qui vous ont blessé, ou de ceux qui vous ont... Et puis tout ça, ça vous hante, ça tourne en boucle, et puis la nuit passe, puis vous avez toujours les yeux ouverts. David, il connaît ce moment, mais il fait cet effort de porter sa pensée, sa méditation sur Dieu. Il médite, il pense à Dieu. Et quand il pense à Dieu, il trouve le réconfort, il trouve la miséricorde divine, il trouve le soutien pour son âme, jusqu'à même la rendre joyeuse dans une période aussi sombre. Verset 8, il dit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. C'est beau. Absalom dort dans une ville fortifiée avec toute une armée pour le garder. David, lui, il est dans le désert, sur une simple natte, mais il est à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Et là, il est en parfaite sécurité. Il en éprouve même de la joie. Il réalise, ah oh Dieu, toi tu contrôles ma vie. Il ne peut rien m'arriver que tu permettes. Tout cela, c'est toi, c'est sous ton contrôle. Je suis à l'ombre, je suis plus en sécurité ici que Absalom dans le palais. Augustin a dit, rien ne manque à qui Dieu reste. eh bien Dieu, parfois, il permet que nous perdions tout pour réaliser combien Dieu nous suffit. Puisqu'il veille sur nous, puisqu'il nous protège, puisqu'il maîtrise même nos ennemis. Ce qui est terrible ici, c'est que quand tout va bien, on est capable de chanter « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». D'ailleurs, je trouve le chant est très, très, très joyeux. « Laï, 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 laï ». Mais je trouve un peu un décalage avec le psaume lui-même et le contexte lui-même. Je ne suis pas sûr que David l'aurait chanté comme ça. Même s'il y a de la joie dans le psaume. Et je crois qu'on a besoin d'expérimenter ça. On a une théologie qui est intellectuelle parfois. On sait, oui, bien sûr, Dieu nous protège. Bien sûr, Dieu, il est souverain. Bien sûr, Dieu, il veille sur nous, comme sur la prunelle de son œil. On sait tout ça, c'est là. Puis vient l'épreuve, et puis toute notre théologie se décompose. On est dans la peur, dans l'inquiétude, on ne sait pas où est Dieu. Et je pense que ce qui arrive à David, ici, c'est pour passer de tout ce qui est de sa théologie à une théologie intellectuelle, à une théologie réelle, quelque chose de vécu. Et ce qui est beau ici, c'est que sa théologie est réelle à David. Quand il dit « je me confie en Dieu », il se confie en Dieu. Il est à l'abri de ses ailes. Oui, oui, il est à l'abri. Je peux me réjouir. Oui, oui, il se réjouit même. Et on a besoin d'expérimenter cela de temps en temps pour que ces vérités ne restent pas simplement une théorie, mais deviennent une réalité. Verset 9, il dit « Mon âme est attachée à toi ». J'aime cette expression-là. Rien ne pourra, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon âme est attachée à toi. Je suis en sécurité parfaite. Il dit « Ta droite me soutient ». Vous savez, quand la Bible parle de la droite de Dieu, c'est toute sa puissance. Il dit qu'il soutient l'univers par sa droite. Il a ouvert la mer par sa droite. Il soutient toute chose par sa droite. Il dit, ta droite me soutient. C'est-à-dire la main qui tient l'univers, qui soutient toute chose. Cette même puissance me soutient. Si Dieu est capable de tenir l'univers, aurait-il des difficultés à tenir ma vie? Oh non, ta droite me soutient. Et au verset 10 à 11, les versets, il y a un petit, ça change un peu de ton, vous avez remarqué. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive et ils seront la proie des chacals. Au chapitre, dans le psaume 3, il avait dit, je ne peux pas résister à vous le lire à nouveau. Il leur dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Voilà. Et je pense que dans des circonstances comme celles qu'ils viennent traverser, ces pensées-là, « Oh Seigneur, tu brises-leur leurs dents dans leur bouche. » Seigneur, ceux qui cherchent à m'ôter la vie, oh, qu'ils aillent dans la profondeur de la terre, qu'ils soient livrés au glaive, qu'ils soient la proie des chacals. Quand même un peu fort, non? Mais c'est exactement ce genre de sentiments qui viennent dans nos cœurs dans de telles situations. Et ce qui est merveilleux, je trouve, c'est qu'on peut se souvenir de cela. Que Dieu est capable d'entendre ce genre de choses, qu'on peut répandre notre cœur devant lui et crier tout ce qui à Dieu, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui peut être tout ce qui est de l'ordre de l'injustice que l'on peut éprouver. Et Dieu, il est capable d'entendre tout cela. On sent dans ces versets-là la souffrance de David. Je trouve que c'est important que ces versets y soient dans ce psaume parce que ça équilibre. D'un côté, on voit toute la joie qu'il a. Je veux me réjouir en l'Éternel, j'élèverai mes mains. Mais à la fois, il y a toute la force, le poids de la souffrance qui est là, de l'injustice qu'il subit. Et David ne peut pas se taire. Il crie sa douleur. Eh bien, dans de telles circonstances, on peut aussi crier notre douleur à Dieu. Faites-le à Dieu plutôt que de le faire devant les hommes. Criez à Dieu. Et puis vous allez voir que si vous criez à Dieu de cette manière-là et que vous portez, comme David l'a fait, vos regards sur lui, si vous contemplez sa puissance et sa gloire, alors sa puissance et sa gloire vont prendre plus de volume. Et puis... la souffrance et l'injustice vont commencer à diminuer à vos propres yeux. Et puis vous allez voir comment Dieu peut régler ça lui-même. Et vous allez pouvoir vous confier dans un Dieu qui est juste, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et enfin, il dit, tu es mon espérance. Et le roi se réjouira en Dieu, verset 12. Vous savez, pour le croyant, la fin, elle est toujours heureuse. La fin est heureuse. Vous pouvez traverser des jours pénibles, des jours difficiles. Vous pouvez ne pas voir d'horizon. Vous pouvez... Mais la fin est heureuse. Vous pourrez vous réjouir. C'est ce qui vous attend, c'est la joie, c'est la gloire. C'est la félicité. Et dans cette vie, on connaît des injustices, on connaît des souffrances, on connaît toutes sortes de maux. Mais la fin, la vraie fin, c'est la gloire, c'est la joie, c'est la félicité. C'est la fin de la souffrance, il n'y a plus de larmes. La fin est heureuse. Et je crois qu'on doit penser à cela, à porter nos regards sur la fin. Dans de telles circonstances. La fin est heureuse. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ nous prépare une place dans sa présence. Jésus, il a connu également, lui le juste, la trahison, le désert. Il a connu la solitude, le dénuement, la soif. Il a connu la mort même. Et dans sa volonté et dans son plan, il veut nous transformer à sa ressemblance. Et donc, ce n'est pas très étonnant qu'il nous fasse passer par des choses similaires à ce qu'il rencontre. Et c'est même plutôt une chance pour nous de se laisser transformer au travers de ces circonstances que l'on n'aurait jamais souhaité. Qu'il nous transforme et qu'il change nos cœurs et qu'il les rende conformes à lui. Et puis il a connu la résurrection, il a connu la joie, le fruit abondant, une multitude rachetée par ses mêmes souffrances et sa mort. Et il veut nous rendre semblables à lui. Et donc ça c'est merveilleux de savoir cela. Ce qu'il a, sa détresse à lui, nous a sauvés. Et il veut aussi transformer nos cœurs et il le fait au travers aussi des souffrances par lesquelles on peut passer. Alors voilà comment on peut apprendre avec David à célébrer la louange du Seigneur, même dans les jours sombres, en gardant à l'esprit de chercher Dieu, de trouver en lui seul notre satisfaction et puis en lui seul notre sécurité et notre espérance.